Oui, effectivement, résumé comme ça, on a un contraste total entre les deux pays. Rappelons alors effectivement le cas de la Belgique, qui a construit sa richesse et sa prospérité sur ses activités coloniales en Afrique, et spécifiquement au Congo. C'est quelque chose qui est très présent, d'ailleurs, je l'ai bien constaté au fil de mon séjour. Au quotidien, on voit dans l'architecture, dans la décoration, beaucoup d'évocations des paysages africains. On a dans toutes les familles bourgeoises, les deux oncles, les trois tantes, qui ont vécu avec des fortunes diverses d'ailleurs dans cette région d'Afrique centrale.
Moi monsieur j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi monsieur j'ai eu la belle vie, autant béni des colonies.
Et puis on a une forte immigration congolaise qui est matérialisée dans le quartier Matongé à XL, qui est extrêmement homogène, on se croirait effectivement un peu en Afrique. Dans le prolongement de tout ça, on a une forte présence du débat aujourd'hui autour de cette période coloniale, avec le mouvement woke qui stigmatise quand même fortement certains comportements des Belges à cette époque.
Donc bon, pas de surprise, la tradition coloniale belge, elle existe bel et bien. Mais la Suisse en face, c'est un sujet de comparaison un peu délicat, non ? Il n'y a pas vraiment de vis-à-vis ?
Oui, alors c'est clair qu'on le disait, il y a un fort contraste. C'est même au point que la Suisse s'est donné une politique expressément non colonialiste, c'est-à-dire que les chambres fédérales, dans les années 1860, ont été amenées à répondre à des interpellations des partis de gauche, étonnamment, à cette époque-là, qui voulaient venir en aide aux personnes pauvres, leur donner la chance de faire un peu fortune à l'étranger. Et donc la Confédération, les chambres fédérales, ont décidé que non, c'était pas un créneau dans lequel il fallait s'engager, comme les pays voisins, essentiellement parce que la Suisse n'avait pas de frontières avec la mer, ça paraissait peu réaliste.
Donc la Belgique à fond dans la colonisation, la Suisse pas du tout, mais tout de même, on a beaucoup parlé ces dernières années du cas notamment David de Pury à Neuchâtel, qui a fondé une partie de sa fortune sur l'esclavagisme. Il y a une forme de colonialisme là aussi, non ?
Mais oui, bien sûr. Alors peut-être pour bien comprendre, je vais commencer par rappeler quand même la situation de la Belgique et du Congo, qui est lui du bon colonialisme, alors qu'on prenne bien dans le mot bon, classique, puis on comprendra mieux le cas suisse. En fait, à un moment donné, la Belgique a pris son indépendance des Pays-Bas en 1830, et là, le roi Léopold Ier s'est rendu compte que les frontières étaient fort étroites et qu'il s'imposait de réfléchir à développer des colonies. Léopold Ier a en fait mené avec ses conseillers toute une série d'explorations à gauche, à droite, mais tout ça n'a pas eu beaucoup de succès.
C'est Léopold II qui est vraiment le roi de la colonisation.
Absolument, c'est vraiment avec lui que tout commence. Dès 1865, donc, Léopold II va engager le célèbre Stanley, qui revient tout juste de son expédition en Afrique où il allait rechercher Livingstone. Donc vraiment, il faut imaginer, il arrive au port de Marseille, et là, il y a deux émissaires de Léopold II qui lui disent « Cher ami, on a là quelques sacs de louis d'or, vous allez repartir en fait en Afrique, vous allez nous dégoter des terres et des contrats qui permettent une politique coloniale. » Et donc, c'est comme ça que naît cette exploration. Alors, une exploration qui n'a rien de très romantique, c'est très vite assez violent, par la force, mais aussi par une violence symbolique, puisqu'on passe avec les chefs de tribu des sortes de contrats, mais en fait, ces pauvres chefs de tribu ne comprennent strictement rien à ce qu'ils sont en train de signer, et ils se font déposséder de leurs terres, et ils se voient obligés de mettre les habitants de ces territoires au service des Belges.
Ce qui est particulier dans cette affaire-là, c'est que les Belges qui étaient en Belgique, eux, ils pensaient qu'on faisait du bien à ces populations africaines.
Oui, c'était un peu la grosse escroquerie de l'affaire, c'est que Léopold II a développé à l'international et auprès des Belges un discours de civilisation, de philanthropie, qui a vraiment servi d'écran de fumée pour dissimuler, je le disais, cette exploitation des territoires et des individus d'une extrême violence. Ça a pas mal marché, son affaire, parce que à la conférence de Berlin de 1885, on a tellement bien consacré cette politique que on a finalement reconnu l'État indépendant du Congo, qui était en fait, il faut bien le comprendre, une propriété privée de Léopold II.
Donc, c'était son jardin.
C'était son jardin, c'est l'expression qu'on utilise parfois. C'était quand même 2,5 millions de kilomètres carrés, d'accord, 80 fois plus grand que la Belgique. Il a pu, avec la bénédiction des grandes puissances européennes, continuer avec la même violence, voire avec une violence accrue. Mais à partir de 1900, quand même, ça commence un peu à grenouiller dans les chancelleries européennes. On commence à se dire qu'il y a quand même un solide problème avec les activités de Léopold II. Il est un peu démasqué, si on veut bien, et il est en fait obligé, forcé, de céder ce fameux jardin à la Belgique. Contre un franc symbolique, l'affaire n'est pas mauvaise, et Léopold II, un peu vexé et défait, meurt l'année suivante. C'est la fin d'une certaine colonisation. Évidemment, l'œuvre colonisatrice continue, simplement elle est beaucoup plus cadrée, elle est le fait d'un État, un certain nombre de scandales disparaissent.
C'est au début des années 60 que le Congo a son indépendance. La fin de la colonisation, c'est vraiment les années 50.
Oui, alors dès les années 30, on a une colonisation qui est donc beaucoup plus sage, si on veut, avec même des familles qui s'installent, etc. Et l'âge d'or, c'est vrai que c'est les années après-guerre. Mais les choses, vous l'évoquiez, tournent vinaigre à partir des années 55, où il y a cette volonté d'indépendance qui sera consacrée en juin 60. Et là, on connaît tous ces images de Belges en pleurs qui embarquent dans les avions de la Sabena en laissant derrière eux des fermes en flammes. Quoi.
Indépendance, tcha-tcha, Kosumiye, Otifwaza, tcha-tcha, Toubakini, au table rond, tcha-tcha, Bagagneo, Onipada, tcha-tcha, Kosumiye.
Alors ça c'est le cas de la Belgique, du colonialisme belge. Mais si on revient à la Suisse, on parlait tout à l'heure de David de Pury. La Suisse finalement, un pays colonial mais sans colonie.
Oui, c'est le côté paradoxal. C'est un des domaines où la Suisse, il y en a malheureusement plusieurs, a su en fait bénéficier d'un certain nombre de profits en cédant des pays étrangers, tirer les marrons du feu, mais sans compromettre son image. On a parfois parlé d'une resquilleuse du colonialisme.
Donc ça veut dire qu'elle s'appuie sur ce qu'ont fait les autres pays pour juste faire des affaires.
Exactement. En fait, ça sera assez éclaté la manière de mener le colonialisme, puisqu'il n'y a pas de politique nationale. On a différentes formes. Il y a le colonialisme militaire. Ça, c'est l'exemple le plus représentatif. C'est l'affaire de Saint-Domingue, où Napoléon fait combattre 600 Suisses pour mater des révoltes d'esclaves sur l'île de Saint-Domingue, devenue Haïti. Ces Suisses, ces mercenaires, hein, dans la bonne tradition suisse, une fois sur place, vont à leur tour profiter de ces esclaves pour s'implanter et développer des plantations. Sur le volet économique, il y a toute une série de destins individuels ou familiaux qui, ici ou là, en Amérique du Sud, en Afrique noire, en Asie du Sud-Est, se sont développés, qui, à eux tous, forment une sorte d'aventure coloniale, mais fragmentée.
Et puis l'esclavage.
La Suisse, malheureusement, elle est sous les feux des projecteurs, malgré ses efforts de discrétion, parce que le commerce triangulaire a fortement impliqué des Suisses, des familles suisses, notamment genevoises, baloises et neuchâteloises. On parlait de Pury, mais il y a aussi du Pérou, donc dans des noms bien connus, qui ont alimenté cet esclavage, notamment dans un domaine qu'on connaît bien à Neuchâtel, qui est les fameuses indiennes, vous savez, ces tissus imprimés. C'est au point qu'on a la preuve qu'un certain nombre d'indiennes étaient conçues dans leur motif pour plaire aux négriers, de sorte à initier ce fameux commerce triangulaire.
Alors aujourd'hui, la statue de Pury a été descendue à Neuchâtel, aspergée de peinture, etc. C'est une des expressions des réflexions qui sont menées aujourd'hui. Le colonialisme, aujourd'hui, en Belgique, on en fait quoi ?
On en parle pas mal, et puis on essaye de corriger ce qui peut l'être. Il y a beaucoup de soucis d'expliquer. Par exemple, le musée de l'Afrique centrale, comme on l'appelait antérieurement, qui était quand même une sorte de lieu de culte d'un colonialisme de papa, a été complètement reconçu avec une muséographie tout à fait nouvelle. On y fait la part belle à un regard africain, on a des œuvres d'art africaines, et on réinterroge pour le moins, pour ne pas dire critique, cette période quand même assez violente et extrêmement paternaliste des années 1860 à 1960, donc un siècle. Ouais.
En Suisse, beaucoup de musées font le tri dans leurs objets, et on parle certaines fois de restituer des objets qui ont été acquis de façon un peu douteuse. En Belgique, il y a un exemple assez fort.
Oui, et c'est tout récent, ça date de l'année passée, sauf erreur. On a restitué au Congo, à la RDC, une relique du cadavre de Patrice Lumumba, qui avait été le premier ministre juste après l'indépendance, qui avait été exécuté de manière extrêmement abjecte très peu de jours après l'indépendance. Et donc, il ne restait en fait qu'une dent de la mâchoire de Patrice Lumumba. Et cette dent a été restituée de manière extrêmement solennelle aux enfants à la population congolaise tout récemment, oui.
Balinga kinalela Lumumba te, Lumumba kufeli l'unité nationale, Mobutu atiye, héros national.